proposer une excellente transition pour la deuxième partie de cette conférence en mettant le doigt sur un sujet central qui est le consentement à payer. On a vu à travers les différentes interventions qu'il y a déjà des choses en place. La transition est globalement, enfin, elle est en train de s'amorcer. On a des solutions, on a des associations comme PADV qui font du travail sur le terrain. On a des solutions digitales. On a des OS qui accompagnent les agriculteurs. Mais quid du consentement à payer, quid du financement, de la capacité du financement pour entraîner tout ça à plus grande échelle? Et Philippe Vincent, vous êtes au cœur de ces questions. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit décryptage de votre point de vue sur ces sujets?
Tu peux me tutoyer, non?
On peut.
Non, je plaisante. Donc je vous le disais tout à l'heure, donc dans les démarches filières qui sont, je dirais, bien développées aujourd'hui, donc on a des agriculteurs qui sont déjà dans la démarche de transition, et je dirais les agriculteurs sont prêts à aller encore plus loin, quoi. Les agriculteurs savent s'adapter à différents défis, hein. Ils l'ont montré de nombreuses fois, donc ils auront la capacité à s'adapter. Par contre, il faut effectivement les accompagner et apporter, je dirais, des éléments de rémunération ou de sécurisation de revenus, hein. Donc on dit faut au moins compenser les efforts, mais je dirais il faut aussi essayer, si on peut améliorer le revenu, ça serait encore mieux, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir, que nous, côté agriculture, on est vraiment le porte-parole des agriculteurs et on essaie vraiment de défendre ça. Donc comment se fait le financement aujourd'hui? Donc je vais reprendre un petit peu les démarches filières tout d'abord, hein, donc soit démarches filières à l'échelle de la parcelle, de l'exploitation ou du système d'exploitation. Bah, généralement, ce que l'on fait, c'est que l'on prend l'ensemble des éléments du cahier des charges et on essaye de chiffrer chacune des lignes de cahier des charges. Donc un agriculteur qui doit transmettre ses données de traçabilité, ben finalement, il va passer combien de temps à enregistrer ça, et ça va coûter combien? Un agriculteur qui doit implanter un couvert spécifique avant une production d'orge, ça va lui coûter combien, et comment ça va se répercuter? Donc on va essayer de chiffrer les différents éléments de cahier des charges et ensuite de négocier, j'irai avec l'acheteur, ben la valeur de ce cahier des charges pour qu'on arrive à amener une rémunération, je dirais, à l'agriculteur, donc qui couvre ses charges et qui peut lui amener un supplément de rémunération. Donc l'agriculteur.
Excuse-moi, Philippe, ces charges, par exemple, c'est quoi? C'est je mets une légumineuse, je mets un couvert en plus, d'azote.
Voilà, si je mets un couvert, je vais devoir l'acheter, la semence du couvert, je vais devoir l'implanter, donc passer du temps à semer ce couvert et éventuellement le détruire avant d'implanter la culture. Donc il faut qu'on prenne en charge le coût du passage de tracteur en semis, en destruction, le coût du couvert. Alors il peut y avoir effectivement derrière un impact sur la fertilisation azotée, ça peut apporter un plus, mais je dirais il faut qu'on prenne tout ça. Il y a des coûts, il peut y avoir des bénéfices, et je dirais il y a un vrai travail, et je reviendrai un peu à la fin aussi, mais ça c'est un vrai travail. Il faut vraiment que les agriculteurs et les représentants des agriculteurs, hein, qu'ils soient coopératives et négoces, s'impliquent vraiment très très fortement là-dessus. Sinon, les cahiers des charges seront imposés par l'aval et la valeur sera imposée par l'aval aussi. Et ça, c'est très, très important. Les agriculteurs ne le mesurent peut-être pas suffisamment.
Je rebondis là-dessus.
Extrêmement important.
Quand on dit imposé par l'aval, ça veut dire quoi? Vous avez une filière, donc un acteur qui vend des produits dans les supermarchés, qui vous dit, moi, je veux mettre un tampon environnemental, mais vous êtes gentil, on ne va pas payer plus.
Vous travaillez aujourd'hui avec un gros industriel. Vous avez un courant d'affaires très très important avec lui, et l'industriel arrive à disant, à partir de maintenant, les 300 000 tonnes de standards que tu me livrais, tu vas me les produire selon ce cahier des charges, et ce cahier des charges, on va te rémunérer 1,50 € ou 2 euros tonnes de plus. Et
on n'aura rien à dire. En réalité, ça coûte beaucoup plus cher à l'agriculteur.
Et on n'aura rien à dire. Et il va dire, si tu me le fais pas, je vais aller voir, et ils en jouent, je vais aller voir un autre OS qui s'alignera peut-être.
Donc aujourd'hui.
Alors bon, ça fait partie du paysage, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, l'effort de la transition, c'est quand même l'agriculteur qui va le faire, et je dirais, il ne faut pas qu'il laisse partir la valeur.
Et puis il faut surtout qu'on lui donne les moyens de le faire. Ce que vous nous expliquez, c'est qu'aujourd'hui on a certains agro-industriels qui ont des claims auprès de leurs clients d'agriculture de régénération par exemple, mais qui derrière continuent à pressuriser les agriculteurs à les payer encore moins en leur demandant encore plus. Donc est-ce que c'est pas dangereux pour la capacité à réellement faire une transition environnementale? Est-ce que c'est sérieux d'un point de vue responsabilité sociétale de ces acteurs-là? Tout le monde, alors, vous n'êtes pas,
non,
peut-être pas
après,
dans une position où vous pouvez répondre.
Je dirais, faut pas caricaturer non plus. J'ai pris l'exemple de gros industriels qui vont faire ça et qui vont mettre la pression. On arrive sur d'autres filières en agriculture de conservation des sols, autour du référentiel PADV, avec un gros industriel qui est Pasquier, à monter une filière qui rémunère très bien les agriculteurs et qui rémunère très bien les OS, avec une entreprise qui est totalement responsable, qui va y consacrer un budget. Et c'est remarquable. Donc après, Quelle est la capacité aussi qu'on a par rapport au portefeuille de nos débouchés à dire je préfère travailler avec tel industriel qu'avec tel autre. Et parfois, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on est face à une concentration. Donc c'est la capacité aussi parfois à dire non, quoi. À dire non, et alors la capacité à le tenir longtemps ou pas.
À dire non à un client qui vous demande des choses sans forcément mettre le prix pour le
voilà, tout à fait.
Et comment PADV, par exemple,
un monde idéal. Mais
je vois que Anne réagit pas mal. Comment vous percevez ça? Quel peut être votre rôle, le rôle d'une association comme PADV là-dedans?
Alors, je vais peut-être dire une banalité, mais je suis convaincue que ce n'est pas une. C'est qu'à la base, dans ces entreprises, il y a des hommes. Et donc, le changement, il va venir des hommes. Et l'exemple de Pasquier, c'est tout à fait ça. On a des hommes engagés jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. C'est une entreprise en plus familiale, avec des valeurs, des convictions. Et voilà, ce n'est pas facile. Ça prend du temps, ça demande beaucoup de dialogue, de création de confiance. Et ça, ça se construit. Ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux à construire cette relation de confiance et cette pédagogie, cette compréhension du sujet. J'aimais beaucoup l'intervention d'Elie au début. Aujourd'hui, ma conviction, c'est aussi que personne ne comprend rien à l'agriculture. Et donc, le problème, il vient de là. C'est qu'en fait, imposer un nouveau cahier des charges, je ne veux pas les défendre, mais les acheteurs ne savent pas du tout quelle est la conséquence, quelle est l'implication. Donc à la base, le premier travail, c'est former et encore former à tous les niveaux de l'entreprise, jusqu'au COMEX, jusqu'au CODIR, à tous les niveaux. Par exemple, chez Système 1, on a formé du CODIR jusqu'à l'agréage. C'est ceux qui reçoivent les produits et vérifient qu'ils sont conformes. On a formé absolument tout le monde. Ça, c'est indispensable. C'est une première étape. Ça ne fait pas grand-chose, mais c'est essentiel. Sinon, le reste ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment le premier élément. Et ensuite, c'est vrai que ça va être cette création de cette relation de confiance. Et donc, ça nécessite aussi de prendre du temps. C'est-à-dire, quand on veut transformer les choses, déjà, il faut se projeter sur le long terme. Le court terme, on oublie direct, parce qu'un changement de système, c'est 10 ans minimum. Et on travaille avec le vivant. Donc, on va essayer, et ça ne va pas forcément marcher, parce qu'il va y avoir une sécheresse, il va y avoir une inondation. Donc, ça, il faut l'accepter aussi. C'est ce que l'exemple de Pasquier est très bon. On a un bilan de campagne annuel, on discute tous ensemble. Et on discute justement de ce qui s'est passé pendant l'année. On va l'objectiver avec des indicateurs, mais on va comprendre et on va regarder du coup qu'est-ce qui doit être travaillé l'année d'après pour continuer d'améliorer. Mais ce dialogue, il est absolument indispensable. Sinon, si on continue d'être dans un oui-non checklist, etc., ça ne fonctionnera pas. L'autre point que je voulais souligner par rapport au rôle des OS, des coopératives, des négoces, c'est qu'il est en effet absolument crucial parce qu'il y a aussi une réalité quand on parle modèle économique, c'est qu'il n'y a pas 2 fermes pareilles. Et encore moins quand on change de terroir, de territoire, parce que quand on parle agroécologie, agriculture régénératrice, on parle du sol, du climat, du terroir. Et donc, forcément, les solutions et l'approche vont être spécifiques au contexte. Et c'est là où les coopératives, en général, les négoces, connaissent ces territoires, connaissent leurs agriculteurs. Et donc, nous, ce qu'on construit, on construit des outils. Donc, on a travaillé sur un outil de modélisation économique qu'ensuite, on va mettre à disposition des techniciens dans ces structures qui vont, eux, le travailler pour aller chercher les différentes références, etc., et construire cette vision, du coup, de la transition en contexte local. Et c'est là où les coopératives sont absolument clés, et c'est elles qui auront ce rôle de massification et d'emmener les agriculteurs. Donc, si elles ne sont pas au cœur du dispositif, il ne va rien se passer. Donc ça, c'est absolument fondamental aussi dans la construction du nouveau modèle économique.
Je rebondis, cet outil traduit aussi le fait que souvent on a du mal à estimer précisément à l'avance le coût réel d'une transition. Il y a peut-être aussi des risques, on se dit on va faire les choses de telle manière, mais l'agriculteur il a des risques qu'il faut prendre en compte. D'où le besoin de la compréhension par les acteurs de la vallée agro-industrielle qui sont des vrais partenaires potentiels de cette transition pour accompagner aussi l'agriculteur dans sa prise de risque et dans son modèle économique, je suppose.
C'est tout à fait ça, c'est une discussion, il n'y a pas une vérité, personne là aujourd'hui. Nous on fait des études par ailleurs pour essayer d'objectiver par rapport aux pionniers, ceux qui font ça depuis 20 ans, quels ont été ces risques, justement. Et on va travailler pas tellement en coûts d'ailleurs, mais plutôt en variation et en risque et en facteur de variabilité. Et ça va être co-construit, donc ça va être un dialogue avec l'acheteur, puisqu'on va devoir prendre en compte aussi sa capacité contributive. Et en réalité, nous, on ne croit pas à un modèle uniquement basé sur une filière. Aujourd'hui, on le fait parce qu'il faut amorcer, et on est heureux que des entreprises engagent leurs responsabilités dans l'amorçage de cette transition. Mais en réalité, pour nous, il y a 4 grands points clés qui vont être absolument cruciaux dans l'émergence d'un nouveau modèle économique. Le premier étant la maîtrise des charges. On en entend parler là, avec la crise ukrainienne. Ça va encore s'envoler alors que ça s'est déjà envolé. Le premier enjeu, c'est l'autonomie, la résilience des fermes, réduire les charges. Il n'y a pas de modèle économique viable si, de toute façon, au niveau des charges, ça ne tient pas la route. Le deuxième, c'est la prise de risque et l'amorçage. Parce que, je disais, c'est une transition de 10 ans. Donc au démarrage, on ne sait pas où on va tester, ça va coûter cher. Ça, est-ce que c'est la responsabilité des filières de le payer? point d'interrogation. Je n'ai pas forcément de conviction aboutie sur ça. Moi, je suis assez aussi convaincue que c'est là que les pouvoirs publics ont un rôle, comme dans toute transition. Ils doivent sécuriser ces transitions. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils ne sont quasiment pas présents sur ces sujets-là. Le troisième grand levier, c'est la valorisation. Et alors là, le sujet par rapport au sujet du coût et du prix, nous, on a tendance à avoir plutôt un rejet de ces termes-là, même si c'est une réalité économique. C'est que, de toute façon, on ne sortira pas de solutions miracles sur ces sujets-là, coût-prix, on est dans des équations quasiment impossibles. L'enjeu, c'est la valeur. C'est quelle valeur on redonne à notre alimentation, à notre production agricole. Et volontairement, je préfère dire production agricole qu'alimentation, parce que là aussi, notre conviction, c'est qu'il n'y a pas que les filières, et il n'y a pas que le consommateur qui sont impactés par la production agricole, il y a les territoires. Et là, le travail à faire pour nous, c'est créer des coalitions territoriales qui rassemblent toutes les parties prenantes pour construire ensemble une valeur de la production agricole. Et la vision, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gâteau qu'on partage, et le gâteau, il se rétrécit de plus en plus. L'enjeu, c'est de le faire réaugmenter, de l'additionner et de considérer que l'agriculture produit tout un tas de valeurs et que du coup, on peut additionner des valeurs pour mieux rémunérer l'agriculture. Et je pense que c'est la seule solution pour sortir de ces équations impossibles de consentement à payer et de prix versus coût, où de toute façon, vu le contexte, ça ne va pas s'arranger. Donc, autant être assez réaliste sur la situation. Donc, il faut complètement changer de modèle. Et c'est là où le carbone, le sujet de la valorisation des externalités positives, prend tout son sens pour aller créer un nouveau modèle économique.
En effet, donc une transition qui cherche son modèle économique, qui doit se financer. On a beaucoup parlé des acteurs de l'aval agro-industriel, donc les filières qui sont un atout pour permettre d'inciter la transformation. Ils ne peuvent probablement pas supporter tout seuls le coût de cette transition, d'où l'enjeu d'être capable d'agréger différentes sources de financement. On a le crédit carbone, on parle du financement par les pouvoirs publics. Je pense qu'aujourd'hui, ce modèle économique, il est en train de se dessiner, il est à créer, il y a tout à faire, mais on est en train d'ouvrir le sujet de savoir combien ça coûte et qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, il faudra réfléchir. Alors, on est malheureusement un peu en retard sur le tempo, mais avant de passer à la partie suivante, est-ce qu'il y a une réaction sur ces questions de modèle économique des autres participants? Intervention courte, si vous en avez, avant qu'on passe à la partie indicateur.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Anne, je pense qu'effectivement, ce qu'il faut quand même qu'on retienne, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle agricole pour atteindre cet objectif et qu'il y a toute une série de modèles agricoles qui peuvent faire qu'on peut atteindre cet objectif de façon la plus propre possible et qu'effectivement, qu'au final, l'agriculteur est un revenu. Et il y a aussi un enjeu qui, évidemment, nous pète un peu à la figure ces jours-ci, c'est que la production doit rester encore un maître mot. On a tout intérêt, évidemment, à continuer à produire, alors évidemment le plus proprement possible, mais il faut la stabilité, il faut nourrir, et il faut la stabilité également sur nos continents et sur les pays les plus proches. Donc, ça va encore compliquer, je dirais, le problème qui n'était déjà pas simple, parce que il faut atteindre cet objectif. Il va falloir produire. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment utiliser tous les modèles et y aller sans les opposer les uns aux autres et en disant, ben voilà, là, on ne peut pas tout changer aussi vite peut-être qu'on le voudrait parce qu'il y a urgence et il y a toujours eu urgence, mais il y a encore plus urgence à produire quand même.